Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 5 octobre, un nouveau tour de vis à Paris et dans les communes de la Petite Couronne. Les bars seront fermés dès demain, les restaurants ouverts mais avec un protocole sanitaire plus strict. Fermeture des gymnases, piscines, sauf pour les mineurs. Quant aux personnes âgées en EHPAD, elles n'auront droit qu'à une visite par semaine sur rendez-vous. Une vingtaine de personnes sont toujours recherchées après les crues catastrophiques dans les vallées des Alpes-Maritimes. Le jeune maire de Breil-sur-Roya, Sébastien Ollaran, dresse la liste des urgences.
La priorité, c'est d'abord de rétablir le réseau téléphonique sur l'ensemble de la commune. Tant qu'on n'a pas de communication entre nous et de communication avec l'extérieur, on ne peut pas organiser toutes les opérations au profit des populations. Ensuite, il va nous falloir très rapidement de l'eau, de l'électricité et du carburant.
Nous serons sur place dans un instant et en ligne avec Fabrice Gentilly qui commande les secours dans le département. Dans RTL Midi aussi, le procès de l'attentat manqué de Villejuif en 2015 qui avait vu l'assassinat d'une jeune prof de fitness. Un assassinat que nie l'accusé Sid Ahmed Glam. Enfin, si vous comptez faire des travaux dans votre passoire thermique, vous aurez le mode d'emploi des nouvelles aides de l'État pour la rénovation énergétique. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Une bonne nouvelle quand même, le soleil est revenu sur la Côte d'Azur.
Oui, c'est toujours ça. C'est vrai que près de la Méditerranée, là, le soleil va dominer tout au long de la journée. En tout cas, pas de nouvelles pluies et même plutôt de très belles éclaircies, notamment dans les Alpes-Maritimes. Ça va être comme ça tout au long de l'après-midi. Un petit peu de vent pour aider encore à l'assèchement. Mais dans toutes les autres régions, là, c'est totalement l'inverse, avec plutôt un ciel très nuageux, chargé, peu ou pas d'éclaircies, avec régulièrement des pluies, pas de grosses quantités, mais régulièrement, donc quelques précipitations quasiment partout. Un petit peu moins quand même entre la Bretagne et le Val-de-Loire en cours d'après-midi. Et encore, le vent atteindra 60 à 70 km/h dans les terres, dans la moitié nord, jusqu'à 80 sur le littoral. Puis les températures toujours un peu fraîches, 14 à 16 degrés dans la moitié nord, un petit peu moins parfois dans le nord-est, jusqu'à 11 à 14 degrés pas plus, et 14 à 21 dans le sud.
La question du jour, approuvez-vous l'ouverture des restaurants en zone d'alerte maximale? Vous êtes 52% à dire oui, il y a 38% de non. On attend vos témoignages au 32-10. Bonjour Pascal Proulx.
Bonjour Christelle, majorité de oui quand même. Est-ce une nécessité pour la survie de tous les professionnels? C'est une position possible ou au contraire, n'est-ce pas très raisonnable au vu de la crise sanitaire? Vous pourrez nous appeler au 32-10 et en débattre notamment entre 14h et 14h30 avec Didier Chenet qui représente les professionnels de la restauration. L'autre sujet du jour, c'est le cardinal Philippe Barbarin qui livre sa vérité dans son livre « En mon âme et conscience ». Il était ce matin chez Alba Ventura. Comment réagissez-vous à ses propos lorsqu'il dit « Je ne suis pas coupable de ce dont on m'accuse ». Et puis on pourra parler de Donald Trump qui affirme avoir beaucoup appris du Covid.
On va l'entendre.
Exactement. Et même si vous avez eu le Covid, bah justement, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces paroles de Donald Trump? À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Paris et la Petite Couronne placés en état d'alerte maximale au coronavirus et on reconfine certaines activités. Les nouvelles restrictions viennent d'être dévoilées pour limiter la circulation du virus. On fait le point avec vous, Agathe Landais. D'abord, les bars vont devoir fermer à partir de demain.
Oui, ce soir, ce sera donc le dernier où les bars seront ouverts. À 22h, ils devront fermer pour deux semaines. Les restaurants, eux, restent ouverts, mais avec un protocole sanitaire plus strict. Les discussions sont toujours en cours pour fixer ces nouvelles mesures, comme par exemple la prise de température ou encore le paiement à table de votre addition. Par ailleurs, il y avait un doute sur l'heure de fermeture de ces restaurants. Eh bien, le préfet a tranché. Ils fermeront bien à leurs horaires habituels. Autre annonce qui était attendue, ça concerne les facs, principal lieu de propagation du virus en ce moment. Eh bien, dès demain, il y aura moitié moins d'étudiants dans les classes et les amphis. Le préfet de police a également annoncé que dans les centres commerciaux et les grands magasins, le nombre de visiteurs sera désormais limité à un client pour 4 mètres carrés. Il n'a cependant pas précisé comment ça sera contrôlé dans les faits. Enfin, concernant le sport, on a appris la fermeture des gymnases, des salles polyvalentes et des piscines fermées pour tout le monde dès demain, sauf pour les mineurs en sortie scolaire.
Mmh. Et pour les personnes les plus fragiles dans les EHPAD, là aussi, il y a des restrictions pour les visites.
Oui, désormais, si vous devez visiter un parent, il vous faudra prendre rendez-vous, venir à 2 personnes maximum et les visites visiteurs qui ne respecteront pas les gestes barrières ne pourront plus revenir dans l'EHPAD. Pour protéger encore plus les personnes âgées de ces EHPAD, les sorties collectives seront suspendues dès demain. Toutes ces mesures que je vous ai évoquées valent jusqu'au 19 octobre inclus.
Merci pour ce point très précis, Agathe. On met la pression sur Paris, on la relâche un peu sur Marseille. Les bars vont donc fermer dans la capitale, les restaurants ont rouvert dans la cité phocéenne et les règles ne sont pas toujours les mêmes. Franchement, on s'y perd, Armelle Lévy.
Ah oui, à Aix-Marseille, il est question d'imposer 1,50 m entre chaque table où les restaurants devront fermer à 22h. Alors qu'à Paris, le protocole sanitaire prévoirait 1 mètre entre chaque table, mais pas de fermeture anticipée à 22h à Paris. Autant dire que les restaurateurs ne s'y retrouvent plus. Ils dénoncent en chœur une cacophonie. En plus, certaines brasseries n'ont pas le droit d'ouvrir parce qu'elles n'ont pas le bon code NAF, le bon code administratif, alors qu'elles servent à table des clients. Et le préfet de police de Paris a rappelé ce matin que tous les restaurants, c'est-à-dire les établissements dont l'activité principale est la vente de repas, peuvent ouvrir, ce qui crée un flou artistique. En réalité, c'est le décret du gouvernement qui définit ces règles. Il n'est toujours pas sorti. Mais les préfets de région, à Paris comme à Marseille, ont le droit d'aller plus loin et de durcir les règles localement par arrêté. Donc deux villes en zone d'alerte maximale ne sont pas forcément soumises aux mêmes règles.
Voilà, non pas les mêmes règles. Merci Armelle. Ce matin encore sur les réseaux sociaux, il y avait des photos de rames bondées sur la ligne 13 du métro parisien. Le gouvernement ne veut pas revenir sur le protocole sanitaire dans les entreprises. Mais Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État chargé de la santé au travail, les incite à faire plus de télétravail.
Il convient de diffuser le télétravail, de le faire autant que possible et de le faire dans l'échange avec les représentants du personnel et les personnels directement, bien sûr. La situation sanitaire se dégrade, hein. Elle nécessite un effort collectif. Limiter les interactions sociales en évitant que nous soyons trop nombreux dans les transports en commun ou trop nombreux dans l'entreprise, ça fait partie de l'effort nécessaire pour que la diffusion du virus ralentisse. Il y a des situations où le télétravail n'est pas réalisable de par la nature de l'activité. Eh bien, il faudra, comme c'est déjà le cas, appliquer strictement le protocole. Et à chaque fois que le télétravail est possible, que l'organisation peut évoluer, eh bien, il faut encourager, diffuser et faciliter le télétravail.
Des propos recueillis par Anaïs Bouissou. Sachez qu'en région parisienne, actuellement, 36% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. Aux États-Unis, la ville de New York prévoit de refermer écoles, restaurants, commerces dans 9 quartiers où l'épidémie est repartie de plus belle. Quant à Donald Trump, il a quitté furtivement l'hôpital en voiture pour saluer ses partisans quelques minutes et il assure dans une vidéo avoir pris une leçon de vie.
J'ai beaucoup appris sur le Covid. J'ai appris en faisant l'expérience moi-même. Ça, c'est la vraie école, celle de la vie, pas celle des livres. Et c'est bon, j'ai compris.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle, testée négative mais cas contact, se met en quarantaine jusqu'à demain matin. Dans un instant, on part dans la vallée de la Roya, terriblement sinistrée.
RTL Midi,
avec Christelle Rebière.
Un torrent de boue avec une crue de 8 mètres, une vingtaine de personnes disparues ou recherchées. 3 jours après la catastrophe, certains villages sont toujours coupés du monde dans les Alpes-Maritimes. Les vallées de la Vésubie et de la Roya ont été dévastées. 5 villages sont toujours isolés du côté de Braye-sur-Roya. Et les habitants font des heures de marche pour donner des nouvelles et assurer un minimum de ravitaillement. Hugo Hamelin.
Oui Christelle, je me trouve à Braye, le dernier village accessible par la route dans la vallée de la Roya. Ici, on croise des pères de famille qui ont fait 2, 3, voire 6 heures de marche pour remplir leur sac à dos, car les routes se sont effondrées. Martin a un bébé de 16 mois.
Bah déjà, il n'y a plus de route, tout est foutu, hein, les ponts, il n'y en a plus. Ouais, je suis parti ce matin pour au carrefour pour ravitailler mon fils. En couche, en lait, en nutriments et tout ce qu'il faut. C'est un gros choc quand même. Ça a été vraiment la catastrophe de chez catastrophe. Le préfet est passé hier, a annoncé que c'était une bombe météorologique.
Ici, il n'y a toujours ni eau ni électricité. Les pompiers ont depuis ce matin 2 hélicoptères à disposition. C'est peu, mais ça va permettre d'amener des médecins dans ces villages isolés, d'apporter quelques groupes électrogènes dans la journée. Les randonneurs de la tempête Alex qui viennent de Tende, de Saorge, longent les rails pendant des kilomètres, parfois juste pour prévenir des proches qu'ils sont toujours vivants.
La voie ferrée, elle nous sert pour aller chercher des vivres, marcher dessus et prendre des nouvelles de nos familles qui sont dans les autres villages coupés du monde, on va dire. C'est dans l'hygiène humaine de savoir comment va une famille, un oncle, un cousin. C'est le bouche à oreille et voilà.
8 personnes sont toujours portées disparues ici dans la vallée de la Roya.
Intéressons-nous justement à ces secours. Nous sommes en ligne avec Fabrice Gentilly, commandant du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, à l'heure où l'on se parle, combien de personnes sont toujours manquantes ?
Alors, les chiffres ont peu évolué et sur lesquels on peut donner des informations. On a toujours ces 8 personnes disparues qui sont, avec la véracité des témoins oculaires et des recoupements que l'on a, on a toujours ces huit personnes disparues, dont les 2 sapeurs-pompiers. 2 personnes décédées ont été retrouvées dans le courant de l'après-midi hier. Mmh. Une personne qui a été retrouvée à l'embouchure de la Roya par les pompiers italiens et une personne qui a été retrouvée incarcérée dans son véhicule dans le Boréon. Oui. Pour l'instant, on ne peut pas savoir si on les associe à nos 8 disparus ou si ce sont d'autres victimes. Ça, c'est une opération de police et qui sera diffusée, bien entendu, par le corps préfectoral. Et puis, bien entendu, il y a d'autres disparus pour lesquels on n'arrive pas trop non plus à se positionner parce qu'on n'a pas forcément des témoins oculaires ou des témoins vraiment tranchants. Mais bon, on pense bien que le nombre de disparus va évoluer défavorablement. Voilà pour ce qui est des disparus. Sinon, on a déjà donc mis en sécurité ou fait des sauvetages pour 700 personnes. Et comme le pont aérien a repris depuis ce matin, on est à peu près à 370 personnes sur ces 700 personnes qui ont été évacuées par la voie aérienne.
Alors le pont aérien, il concerne quelle vallée ? Parce qu'on a eu l'impression que les 2 vallées n'avaient pas été secourues tout à fait au même rythme. Hier, c'est allé très vite pour la Vésubie. Alors, et puis sur la vallée de la Roya, vous avez entendu le maire de Breil, il attend toujours.
Ben vous savez, à chaque fois qu'on a un événement dramatique, même n'importe quelle personne, quand on attend les pompiers, on trouve toujours que c'est long.
Oui.
2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ça, on dirait que c'est une éternité. Et je pense que ça a été pareil pour les vallées. Aujourd'hui, on a presque 1000 pompiers qui sont sur le front. On en a de façon équitable sur les deux vallées en fonction des besoins du commandant des opérations de secours dans les 2 vallées. On a 12 hélicoptères qui font des rotations aériennes, mais on n'a pas que d'évacuation sanitaire, on a aussi le rétablissement de certaines infrastructures radio, téléphoniques, on monte des groupes électrogènes, des vivres, de l'eau, mais l'ampleur du désastre est telle que on a l'impression que, bien entendu, chacun voudrait avoir les moyens de secours pour lui-même, mais il y a aussi des gens qui sont isolés dans la matinée, il y a beaucoup de choses dans la vallée de la Vésubie. Donc effectivement, on est sur tous les fronts. On essaye de faire au mieux pour tout le monde, mais le temps paraît toujours très long quand on est dans cette situation.
Ça va prendre combien de temps, à votre avis, pour rétablir au moins des voies de communication, au moins du téléphone ? Un peu d'électricité.
Alors le téléphone, a priori, certains opérateurs arrivent à avoir quelques relais. Ça commence à remonter doucement, mais je pense que là, il faudrait se tourner vers les techniciens qui sont coordonnés par l'interservice au niveau de la préfecture. L'électricité, nous le montons des groupes électrogènes, bien entendu, de concert avec Enedis, pour essayer de secourir une partie des villages ou alors des établissements comme les EHPAD ou les hôpitaux. On essaye aussi de maintenir la pérennité des carburants sur ces groupes électrogènes, parce qu'il faut aussi réalimenter forcément régulièrement les groupes électrogènes. Et puis, bien entendu, il y a aussi les autres services qui travaillent pour le rétablissement d'une partie de l'eau potable. Et pour ce faire, donc, on monte aussi de l'eau potable. Il a été remis en service le train à marche lente, je crois, jusqu'à Breil-sur-Roya. Donc, ça va nous permettre d'amener quand même un volume de vivres et d'eau important sur Breil-sur-Roya. Après, effectivement, on reste avec une multitude de zones isolées qui nous contraignent donc de faire des bons aériens pour pouvoir alimenter et vérifier si les gens sont encore dans une façon décente, ou si on est obligé de les évacuer, parce qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui vont se déclarer comme étant nécessiteux de vouloir regagner le littoral pour être relogés dans la famille ou pris en compte par la préfecture.
Donc ça va durer encore des jours et des jours, et on entend que vous êtes très mobilisé. 950 pompiers. Merci beaucoup, Fabrice Gentilly, d'avoir été l'invité de ce journal et d'avoir fait le point. Sachez aussi qu'Emmanuel Macron se rendra mercredi dans les Alpes-Maritimes, dans les zones sinistrées. Dans un instant, le procès de l'attentat manqué de Villejuif en 2015.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Le procès des attentats de janvier 2015 à Paris est toujours en cours, que s'ouvre un autre procès pour un attentat avorté, cette fois toujours en 2015, au mois d'avril. Sid Ahmed Glam est soupçonné d'avoir voulu attaquer une église à Villejuif et d'avoir tué au passage Aurélie Châtelain, une jeune prof de fitness de 32 ans. Le terroriste présumé comparaît devant la cour d'assises spéciale de Paris avec 8 autres personnes et il nie avoir tué la jeune femme, Cindy Hubert.
Oui, l'accusé a toujours répété que ce n'est pas lui qui avait appuyé sur la gâchette, mais un mystérieux complice. Son sang a pourtant été retrouvé en grande quantité dans la voiture d'Aurélie Châtelain. Ce matin, la famille de la jeune femme lui fait face. Ses parents sont ici pour tenter d'obtenir des réponses. Pourquoi Sid Ahmed Glam l'a pris pour cible sur ce parking de Villejuif? Est-ce qu'il a voulu se débarrasser d'un témoin qui était là juste au mauvais moment? Et surtout, quelle était la mission précise du terroriste? Sid Ahmed Glam reconnaît désormais qu'il préparait un attentat de masse. Il est alors en lien constant avec des hauts cadres de l'État islamique. L'étudiant fait des repérages sur un quai de RER, sur des marchés, mais un de ses interlocuteurs l'oriente dans un message sur une bonne église avec du monde. Sid Ahmed Glam s'apprêtait donc à se rendre surarmé dans une église de Villejuif, mais il va se tirer une balle dans la cuisse, un acte volontaire pour éviter cette tuerie, soutient aujourd'hui son avocat Maître Benoît.
Sid Ahmed Glam a toujours indiqué qu'il s'était arrêté avant de commettre les attentats, ce que nous essaierons de démontrer devant la cour d'assises.
La cour a 5 semaines pour tenter de dissiper les mystères autour de ce massacre évité de justesse.
Cindy Hubert au palais de justice de Paris. Une opération douanière qui avait basculé dans l'horreur. C'était en novembre 2015. Un douanier, Pascal Robinson, était tué par un trafiquant d'armes à Toulon alors qu'il tentait de l'interpeller en train de se faire livrer une pièce de fusil d'assaut. Son frère Emmanuel dénonce sur RTL le cruel manque de moyens des douaniers, parents pauvres de la sécurité.
Les douanes, c'était sa vie. Et par exemple, j'y ai pare-balles, il allait faire rafistoler par une couturière l'équipement que l'État lui fournissait pour avoir quelque chose digne de ce nom. Là, j'ai eu plusieurs de ses anciens collègues au téléphone et ils me disaient que les dernières livraisons de gilets pare-balles n'étaient pas prévues pour les femmes. Comment est-ce qu'on peut envoyer des fonctionnaires risquer leur vie sans les équiper correctement? J'aurais espéré que tout ce drame personnel puisse servir la communauté douanière. Le message qu'on souhaiterait faire passer à l'occasion de ces 2 longues semaines de procès, c'est celui-là.
Propos recueillis par Thomas Proutot. Pour la directrice générale des douanes, Isabelle Braun-Lemaire, ce qui est arrivé à Pascal Robinson a été un électrochoc.
Cet assassinat, tout le monde l'a en tête, hein. Donc on a un groupe de travail régulier que je conduis personnellement sur les conditions de travail et il y a tout ce qui est équipement. On fait pas mal d'expérimentations et on commente même vis-à-vis de tous les agents les avancées qu'on a pas à pas durant ces mois de travail.
Isabelle Braun-Lemaire avec Alice Moreno. Le cardinal Barbarin concède des erreurs, tout au plus. Celui qui a été condamné puis finalement relaxé en appel à la suite de l'affaire Prena, du nom de ce prêtre accusé d'avoir agressé sexuellement des enfants durant une vingtaine d'années. Le cardinal Barbarin a livré sa vérité ce matin sur RTL. Il publie un livre baptisé « En mon âme et conscience » et il avoue avoir manqué de courage.
« Je ne suis pas coupable de ce dont on m'a accusé. » Ça ne veut pas dire que je n'ai pas commis d'erreur. Je suis responsable de tout ce que j'avais à dire, à faire et que j'ai fait, mal fait, pas assez bien fait, avec pas assez de ténacité ou pas assez de punch, si vous voulez. La première fois où une victime est venue me voir, là, il y a quelqu'un qui a eu un courage énorme, et je lui dis, est-ce que vous acceptez d'écrire ce qui s'est passé? Et la personne l'a accepté, et en fait, on avait des faits précis. Et à partir de ce moment-là, il fallait agir. Pourquoi ne l'ai-je pas fait avant? Et ça, c'est ce que j'appelle une erreur. Mais du point de vue juridique, c'est rien.
Mais vous regrettez quand même?
Ben bien sûr. La seule chose, c'est que jamais personne ne m'a répondu quand j'ai posé des questions. Que fait-on avec des faits très anciens?
Le cardinal Barbarin, interrogé ce matin par Alba Ventura. Concilier, relancer, écologie, c'est souvent une équation impossible, mais le gouvernement mise plus que jamais sur la rénovation énergétique. Notre pays compte près de 5 millions de passoires thermiques. Depuis le 1er octobre, MaPrimeRénov s'adresse à tous les propriétaires, quel que soit leur niveau de revenu, avec des aides allant de 40 à 90% d'un devis. Alors Christophe Bourou, qui a droit à quoi? Donnez-nous des exemples.
Alors d'abord l'exemple d'un couple qui a un revenu annuel de près de 22 000 euros et qui souhaite isoler les murs de sa maison, devis des travaux 10 000 euros, et bien grâce à cette nouvelle prime, ils recevront 8 700 euros d'aide, soit au final une dépense réduite à 1 300 euros. Autre cas, alors très fréquent, le changement d'une chaudière ou l'installation d'une pompe à chaleur. Dans ce cas, l'aide peut être de 8 000 euros et jusqu'à 10 000 euros pour les foyers les plus modestes. Au total, une trentaine de travaux sont concernés. Cela va de l'installation d'un radiateur performant, passant par une isolation thermique, fenêtres, murs, toitures. La bonne nouvelle, Christelle, ces aides peuvent se cumuler. Ainsi, les maisons individuelles très mal isolées, considérées, vous le savez, comme des passoires thermiques, pourront bénéficier d'un coup de pouce supplémentaire de 1500 euros.
Donc, bonne nouvelle, mais quelle démarche faut-il faire justement pour obtenir ces aides?
Alors, il faut faire la demande officielle sur Internet, maprimerenov.gouv.fr. Celle-ci sera examinée sous 2 semaines et si la réponse est positive, votre prime sera versée à la fin des travaux. Il est aussi possible de demander une avance. Enfin, c'est valable et c'est important pour tous les chantiers engagés depuis le 1er octobre.
Bon, mais il y a un peu de paperasserie entre les deux
oui,
quand même.
Très français.
Ça se mérite. Merci Christophe. Le prix Nobel de médecine a un intérêt particulier cette année alors que le monde subit le coronavirus. Il est attribué aux Britanniques Houghton et aux Américains Alter et Rice pour avoir découvert un autre virus, celui de l'hépatite C, qui lui aussi a posé un problème de santé mondial. Un mot de football à quelques heures de la fin du mercato. Le PSG renforce son milieu. Il se fait prêter le milieu de terrain défensif du FC Porto, Danilo Pereira, pour une saison avec option d'achat pour un montant de 16 millions d'euros. Le joueur est attendu dans la capitale dans la journée. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 3210 dans 5 minutes. Pascal.
On va évidemment parler des restaurants et c'est intéressant parce que si vous êtes restaurateur à Marseille, vous avez sans doute le sentiment de ne pas avoir été traité de la même manière que si vous êtes restaurateur à Paris. Mais en même temps, le gouvernement a écouté. Forcément, il a tiré les leçons. Alors évidemment, les Marseillais, c'est eux qui ont été peut-être les victimes. En tout cas, j'imagine, c'est ce que les restaurateurs marseillais peuvent penser. Donc ça va être notre cœur d'actualité, de vous faire réagir. Avec 2 options possibles, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou est-ce que vous trouvez que ce n'est pas forcément très raisonnable? Les bars également qui seront fermés, on en parlera. Le cardinal Barbarin, et ça fait toujours réagir, il dit au fond, je n'y suis pour rien et je ne suis pas responsable de ce dont on m'accuse, je ne suis pas coupable de ce dont on m'accuse. Et puis Donald Trump, on l'avait dit tout à l'heure, il dit qu'il a beaucoup appris du Covid et ça c'est intéressant.
Comment ? Vous l'avez entendu tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Et c'est un journal très riche, hein, d'ailleurs. Il y a beaucoup de témoignages. C'était extrêmement intéressant. Et donc,
on aimerait bien savoir ce qu'il a appris du Covid, Donald Trump. Je suis d'accord avec vous.
Bah, il a dit que ça ne s'apprend pas dans les livres. Moi, j'aime bien comme il a dit, ça ne s'apprend pas dans les livres. C'est la vraie vie. Bon.
Ça me rappelle Boris Johnson quand il était rentré du Covid.
Mais
aussi.
Bolsonaro, Johnson, ouais. Trump, les trois ont eu le Covid.
Ouais.
Alors que c'était les plus en défiance sur le
les plus
Covid.
Sceptiques.
Les
ouais.
plus sceptiques. Mais là, ce qui va nous intéresser avec les auditeurs, c'est si vous l'avez eu, est-ce que vous avez appris quelque chose?
Témoignage à suivre. Merci Pascal. La météo, Louis Baudin, pas de doute, cette fois l'automne s'installe.
Ah oui, là on le voit de jour en jour, ça défile. Les précipitations concernent quasiment toutes les régions. Là je vois les images radar de la pluie de la Normandie jusqu'au centre. Il y en a également région Rhône-Alpes, dans l'extrême nord, dans le nord-est, sur l'île de France, dans le sud-ouest également. Il n'y a que près de la Méditerranée, et ça c'est une bonne nouvelle, où là le ciel est un petit peu plus dégagé. A priori, ça le restera tout au long de l'après-midi. Donc pas de pluie, notamment sur les Alpes-Maritimes ou encore du côté de la Corse, un peu plus d'éclaircies peut-être également du sud de la Bretagne jusqu'au nord de l'Aquitaine, je dis ça avec prudence. Le vent soufflera également assez fort, y compris dans la moitié nord, 60-70 km/h jusqu'à 80 même sur le littoral et les températures un peu fraîches, 11 à 14 degrés seulement dans le nord-est cet après-midi. Oui, 14 à 18 degrés dans les autres régions, il n'y a que près de la Méditerranée où on frôlera encore les 20 degrés.
Bon, et demain, même régime?
Même chose, je vois ma carte, c'est la même chose, des nuages, de la pluie quasiment partout, du vent fort jusqu'à 70-80 km/h, y compris dans les terres. Et puis, bonne nouvelle, la Côte d'Azur sera toujours épargnée par cette dégradation, donc qui concernera toutes les régions. Ça donnera de la neige en montagne à partir de 1800 mètres sur les Pyrénées ou encore les Alpes. Et puis, les températures, comme aujourd'hui, 14 à 17 degrés, pas plus dans la moitié nord, 17 à 21 dans le sud.
Merci, Louis.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
On a sauvé les restaurants à Paris. Quand je dis on, c'est le gouvernement. Christian, vous êtes restaurateur, vous êtes à Paris, vous êtes content, bonjour.
Très content, oui. On préfère rester ouvert pour nos clients et pour notre personnel.
Bon, et vous allez nous expliquer comment vous avez réadapté votre protocole. Le rappel des titres avec Christelle.
Les bars seront fermés à partir de demain à Paris et pour 2 semaines. Les restaurants ouverts, on vient d'en parler, mais avec un protocole très strict. Nouveau tour de vis face à la montée du coronavirus. Dans les EHPAD, les personnes âgées n'auront droit qu'à 1 visite par semaine sur rendez-vous. Une jauge sera mise en place dans les centres commerciaux et les grands magasins avec au maximum un client pour 4 mètres carrés. La solidarité s'organise dans les vallées de l'arrière-pays niçois pour tenter de retrouver les victimes après les crues meurtrières de vendredi. Plus de 950 pompiers et une douzaine d'hélicoptères sont mobilisés pour assurer du ravitaillement et des évacuations. Emmanuel Macron doit se rendre en milieu de semaine sur place. À Roland-Garros aujourd'hui, la dernière rescapée française, Fiona Ferro, qui dispute son premier huitième de finale en Grand Chelem. On espère qu'elle nous fera autant vibrer qu'Hugo Gaston hier. Jean-Michel Rascol, bonjour.
Ah oui, c'est vrai, bonjour. On la verra en fin de journée face à l'américaine Sofia Kenin, tête de série numéro 4. Un Everest pour Fiona Ferro, peut-être ou peut-être pas. Hugo Gaston a réveillé le tennis français ces derniers jours et c'est une jeune femme décomplexée, très ambitieuse, que l'on verra tout à l'heure. Particularité, Sofia Kenin, son adversaire, sert en regardant ses pieds. Une préparation inhabituelle mais efficace. L'américaine a remporté en début d'année l'Open d'Australie. Également au programme, Novak Djokovic face à Karen Khachanov, le russe aux racines arméniennes, alors que Grigor Dimitrov et Stefano Tsitsipas bataillent en ce moment même pour une place en quart de finale. C'est d'ailleurs juste le début du match.
Ça va aller, tout va bien se passer.